Bonjour et bienvenue dans le podcast « À la découverte de soi » de l'évêque Michel Ambourouet. Chaque semaine, vous y trouverez toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Prenez une bonne inspiration et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership. Bonne écoute.
Réussir, c'est possible. Regarde quelqu'un, dis-lui « réussir, c'est possible ». Et je suis arrivé à un constat tragique. Il y a plus de chrétiens malheureux que de chrétiens heureux. Okay. Vous n'allez pas vouloir le reconnaître, mais la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas heureux. Okay. Pourtant, vous dites que vous êtes en Christ. Et c'est le prophète Jacques qui nous indiquait hier qu'être en Christ, prophète Jacques ou l'évêque François, non, l'évêque François, qu'être en Christ, c'est être dans la lumière. Et que normalement, en étant dans la lumière, il a lu Ésaïe par la suite, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Donc normalement, il y a une lumière qui précède la lumière externe. C'est la lumière qui t'éclaire. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Ça veut dire qu'il y a une lumière qui arrive, mais il y en a une autre qui doit se faire à l'intérieur de toi. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Donc tant que tu n'es pas éclairé, ta lumière, la lumière qui vient, les opportunités qui viennent, tu ne les saisiras pas. Beaucoup d'entre nous vivent une vie chrétienne d'apparence, et parfois d'apparat. Ça veut dire que tu as les vêtements qu'il faut, tu as les attitudes qu'il faut, mais intérieurement, tu n'es pas heureux, tu n'es pas satisfait de la vie que tu vis. C'est possible d'être à l'église et de ne pas être en Christ. C'est possible d'être dans les rassemblements qu'on appelle des rassemblements chrétiens, mais de ne pas être en Christ. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que normalement, quand tu es en Christ, pas quand tu es forcément juste dans l'église, parce que quand vous pensez église, vous pensez bâtiment. Okay? Vous ne pensez pas le corps mystique de Christ. Mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ça veut dire qu'il doit y avoir une différence entre toi avant Christ et toi après Christ. Est-ce que ça va pour tout le monde? Okay. Je suis convaincu aujourd'hui que nous ne sommes pas obligés de vivre la fatalité selon laquelle être à l'église ne change pas la vie. Je crois qu'il existe autre chose que ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Et je suis certain que pour vivre autre chose, nous devons entendre autre chose. Nous ne serons pas autre chose que ce que nous avons toujours été si nous n'entendons pas un autre discours que celui que nous avons toujours entendu. Okay. Il y a d'autres vérités, il y a d'autres mystères, il y a d'autres principes que nous devons partager, auxquels nous devons exposer l'Église. Si l'Église doit devenir l'Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Tu ne pourras pas être tout ce que Dieu veut que tu sois si tu écoutes toujours la même chose. Un autre de mes constats au sujet de la vie et de l'être humain, c'est qu'il y a très peu de gens qui changent. Je vais dire ça différemment, les gens ne changent pas. Ecclésiaste 1:9, c'est Salomon qui parle. Voici ce qu'il dit. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je ne sais pas si vous réalisez la teneur de cette déclaration. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que de manière générale, les gens ne vivent que ce qu'ils ont déjà vécu. Ça, c'est une fatalité. Et je crois que tu n'es pas obligé de te retrouver dans cette déclaration. C'est possible de vivre autre chose que ce que tu as toujours vécu. Pour qu'une personne devienne autre chose que ce qu'elle a été, j'ai écrit dans mes notes qu'il fallait un miracle. J'ai grandi à Port-Gentil, j'ai marché dans les rues de Port-Gentil, j'ai appris à Raponda, école mixte Raponda, et il y a des gens que j'ai rencontrés 10 ans plus tard. J'étais parti en voyage pour mes études théologiques, je suis rentré. À mon retour, 5 ans, 6 ans, parfois 10 ans plus tard, je me suis rendu compte que ces personnes n'avaient pas changé. Ça me fait mal de me rendre compte que c'est possible de revoir quelqu'un 10 ans plus tard et de se dire « Waouh, tu n'as pas changé ». C'est la pire des insultes qu'on puisse vous faire. Qu'on vous retrouve 10 ans plus tard et que la personne dit « Waouh, tu n'as pas changé ». Okay. Normalement, le temps doit contribuer au fait que tu deviennes quelqu'un d'autre. Beaucoup ont grandi, ont des cheveux blancs, ont du poids, ont maigri, mais intérieurement ils sont pareils. Pour ceux qui prennent des notes, je veux que vous notiez que si le vieillissement ou l'âge est une question de temps, la maturité est une question de mentalité. Tu ne deviens pas mature parce que tu as pris de l'âge. Tu deviens mature parce que tu as grandi dans ta tête. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Est-ce que ça va? Job 22, 28. Come on, à tes résolutions, sur tes sentiers. Ok. Ce que ce texte indique, c'est que le succès, il y a une formule que l'on peut attribuer au succès. Okay. Ce que le dictionnaire Larousse définit comme le succès, c'est le résultat heureux obtenu dans une entreprise, un travail, une épreuve sportive. En fait, ouais, il va falloir que je vous aide, mais assez rapidement. Je veux que vous compreniez. Bon, déjà, le texte n'a pas été écrit en français, il a été écrit en hébreu. Ok. Ce mot succès ici, c'est un mot que je ne vais pas prononcer, mais qui fait référence au fait d'être élevé. Donc, pour ceux qui prennent de notes, le succès, c'est l'élévation. L'autre traduction de ce mot hébreu, c'est la stabilité. C'est le fait, pas juste de monter, mais le fait de se maintenir là où tu vas. Beaucoup de gens montent et redescendent. Beaucoup de gens réussissent pendant une saison et échouent dans la prochaine. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu montes, que tu te maintiennes au sommet. Amen. Ton voisin n'a pas dit amen.
Amen.
Ok, maintenant je vais prophétiser. Je lève ma main droite. Je décrète et je déclare qu'en ce qui te concerne, tu ne seras pas une étoile filante.
Amen.
Ton voisin n'a pas dit amen, mais ce n'est pas grave.
Amen.
Je dis en ce qui te concerne, tu ne feras pas partie des gens qui ont essayé.
Amen.
Je dis tu feras partie des gens qui ont réussi.
Amen.
Je dis tu seras peut-être le premier dans ta famille à réussir dans ce domaine. Tu seras peut-être la première à réussir dans cette activité. Je dis là où d'autres ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas dans ton mariage. Tu n'échoueras pas dans tes affaires. Tu n'échoueras pas dans l'éducation de tes enfants. Tu n'échoueras pas dans tes entreprises. Tu n'échoueras pas dans le ministère. Je dis tu ne commenceras pas au sommet pour ensuite finir en bas. Je dis en ce qui te concerne, non seulement tu vas commencer mais tu vas achever. Tu vas commencer et tu vas achever la course. Et je dis, tu l'achèveras dans le succès. Ton voisin n'a pas dit amen, mais c'est pas grave. Je dis, tu réussiras. Bon gentil saura que tu fais partie des gens qui ont réussi. Je dis, le Gabon saura que tu fais partie des gens qui ont réussi. Tu ne réussiras pas simplement. Je dis, tes enfants réussiront. Ah là 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 là. Bouscule-le trois personnes à côté de toi. Dis-leur, c'est possible de réussir. Je sais que ton voisin n'aime pas quand tu lui parles. Cherche un autre voisin. Dis-lui, c'est possible de réussir. Les gars, j'ai besoin de son. Cherche un autre voisin. Dis-lui, c'est possible de réussir. Prenez place. Ce mot succès fait référence donc au fait d'être élevé, au fait de réussir, au fait de monter et de se maintenir au sommet. Maintenant, le mot résolution, à tes résolutions répondra le succès. Écoutez-moi bien, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je veux que vous compreniez donc que le succès pose une question. Qui va réussir? Ceux qui répondent au succès, c'est ceux qui sont capables de prendre des résolutions. Écoutez-moi bien, ça veut dire qu'il n'est pas possible de réussir sans résolution. Le mot résolution, là, fait référence au fait de savoir prendre des décisions et de savoir s'y tenir. Tu ne peux pas réussir si tu es quelqu'un d'inconstant. Tu ne peux pas réussir si ton oui est égal à ton non. Tu ne peux pas réussir si quand tu dis oui, quelques secondes après, tu es capable de dire non. Tu dois être un homme, une femme de conviction. Tu dois être quelqu'un, quand il a pris une décision, il s'y tient. Tu dois être quelqu'un qui est capable de donner sa parole et sa parole vaut quelque chose. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Je dis, je cherche des hommes et des femmes de parole dans la salle. des hommes et des femmes qui sont capables de prendre une décision. Je dis, quand toi tu as donné ta parole à quelqu'un, la personne est capable d'aller à la banque avec ta parole. Il faut que quand tu dises à quelqu'un je serai à l'heure, la personne est capable de dire je sais que s'il est en retard c'est parce qu'il a eu un accident. Je sais que si elle est en retard c'est qu'il y a quelque chose d'inattendu qui est arrivé. Il ne faut pas que ta parole ne vale pas grand chose. Écoute-moi bien, si ta parole ne vaut rien, c'est que tu n'es pas capable d'appeler à l'existence les choses qui ne sont pas. Je dis, si ta parole ne vaut rien, c'est que tu n'es pas capable de créer. Si ta parole ne vaut rien, c'est que tu n'es pas capable de changer ta vie. La version anglaise dit ceci: You shall decree a thing and it shall be established. La version française dit: à tes résolutions répondra le succès. Mais la version anglaise dit: tu décréteras une chose et elle sera établie. Oh, vous ne m'entendez pas. Ça veut dire qu'en réalité, lorsque tu as une résolution, tôt ou tard, ça doit sortir de ta bouche. Lorsque tu as une résolution, tôt ou tard, les gens doivent l'entendre. Tu dois être capable de dire, quand j'ai dit je serai là, les gens se disent, si Michel a dit qu'il sera là, c'est qu'il sera là. Écoutez-moi bien, nous ne pouvons pas être pris au sérieux quand nous annonçons des réunions à 17h30 et vous arrivez à 18h. Il faut à un moment que nous soyons des hommes et des femmes de parole, des hommes et des femmes qui sont capables d'être à l'heure, des hommes et des femmes qui sont capables d'avoir des relations sérieuses avec les gens. Bouscule ton voisin et bouscule ta voisine. Dis-lui, il faut que tu prennes des résolutions. Nous sommes fatigués de chrétiens qui ne sont pas capables de prendre des résolutions. Des hommes et des femmes, tu ne peux pas faire des affaires avec eux, parce que dès le moment qu'ils te donnent leur parole, tu sais que ça ne vaut rien. Écoutez-moi bien, il faut qu'on nous respecte. Il faut qu'on sache que les chrétiens sont des hommes et des femmes de parole. Il faut qu'on sache que lorsqu'on dit quelque chose, on le fait. Il faut qu'on soit comme Dieu. La Bible dit, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Tu dois pouvoir dire, quand je dis quelque chose, même si ça me coûte, je vais veiller à ma parole. Même si je ne dois pas dormir, je vais veiller à ma parole. Même si je dois faire le kilomètre supplémentaire, je vais veiller à ma parole. Je sais que si l'évêque François me dit, si j'appelle l'évêque François, je dis, évêque François, j'ai besoin d'aide. Et que l'évêque François me dit, je te donnerai mon aide, je peux aller dormir en paix. Parce que je sais que c'est un homme de parole. Vous ne m'entendez pas. Je dis, vous ne pouvez pas être pris au sérieux dans la société si lorsque vous donnez votre parole, les gens s'inquiètent encore. Est-ce qu'elle va faire ce qu'elle a dit? Est-ce qu'il va faire ce qu'il a dit? Il faut que normalement, lorsque quelqu'un te rencontre, son problème s'arrête au moment où tu lui donnes ta parole. Il faut que la personne ait la paix parce que tu lui as donné ta parole. On nous a dit qu'on est fils de Dieu. On nous a dit qu'on est des dieux. Mais quel genre de Dieu êtes-vous qui n'ont pas de parole? Le mot résolution fait référence aussi, le mot hébreu qui parle de résolution fait référence au fait de savoir séparer. Ça veut dire que prendre des résolutions va t'obliger à créer une séparation. Tu ne peux pas prendre des résolutions et faire partie de la masse. Les résolutions te distinguent, les résolutions te séparent. Je ne mange pas de ce pain-là, je ne touche pas à ça, je ne fais pas ça, ça te met au large, ça te distingue. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, tu me fais peur. Est-ce que tu as une parole? 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 Il me reste combien de temps? Est-ce que tu as une parole? 20. Est-ce que tu as une parole? Ecclésiaste chapitre 10, à cause du temps. Le texte dit, c'est pas grave si je prêche pas tout ce que je voulais dire. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Il dit, la folie occupe des postes très élevés. Les riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant à terre comme des esclaves. J'ai lu le texte plusieurs fois à mon Seigneur, un révérend des prophètes. Et j'ai prêché ce texte en disant l'erreur doit être corrigée. Je me suis appuyé sur ce texte pour dire qu'il y a des erreurs qui doivent être corrigées. Mais le problème, c'est que je suis reparti au texte original. Et je suis reparti à la définition. Le mot erreur, c'est quelque chose qui est commis comme par inadvertance ou quelque chose qui est commis en pensant qu'on fait juste, qu'on fait bien. Par exemple, la Bible dit que Ève a été séduite. Ève a commis une erreur. Mais Adam n'a pas été séduit. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Le texte dit donc, il faut que vous sachiez que lorsque quelqu'un commet une erreur, comme on a tous commise, on a tous commis des erreurs. Quand vous commettiez l'erreur, vous pensiez faire bien. Vous êtes avec moi? C'est le temps qui vous révèle que vous avez eu tort. Tu as commis une erreur de te confier à cette personne. Tu as commis une erreur de rentrer dans cette entreprise. Tu as commis une erreur de déménager, de partir de Port-Gentil parce qu'il y avait la crise. Mais tu étais sincère, tu étais sincère. Écoutez-moi bien, la sincérité n'exclut pas l'erreur. Ce n'est pas parce que tu es sincère que tu es dans le vrai. Tu peux être sincère et avoir tort. Que les femmes disent amen. Parce que les femmes pensent que quand elles sont sincères, elles n'ont pas tort. Non, mais j'étais sincère. Oui, mais ce n'est pas ça qui compte. Il y a des moments où la sincérité n'est pas plus importante que le fait de ne pas commettre l'erreur. Il y a des erreurs qui vous coûtent du temps. Dieu va m'aider ce soir. Il y a des erreurs qui vous coûtent du temps. Écoutez-moi bien, une erreur peut te coûter de l'argent, ce n'est pas trop grave parce que tu peux réavoir de l'argent. Mais il y a des erreurs qui te mangent le temps. Et le temps ne revient pas. Quand tu as perdu du temps, tu as perdu plus que de l'argent. Il y a des gens, tu les as perdus à cause d'une erreur. Écoutez-moi bien, il y a des relations qu'on ne perd pas. Il ne faut pas qu'on vous mente. La vérité, c'est qu'il y a des gens sur la terre des vivants qui sont trop importants pour que vous en sépariez. Il y a des gens, il ne faut pas les avoir dans votre vie. Si vous ne me croyez pas, demandez aux gens qui prennent Jonas sur leur bateau. Il y a des passagers, ma révérende, qu'il ne faut pas avoir dans ton avis. Parce que quand ils sont dans le bateau, ils attirent à toi une tempête. Et ils s'organisent pour se cacher en fond de cale. Pour que toi, tu jettes par-dessus bord les biens, l'argent, le temps. Il y a des gens, tu aurais dû les chasser, tu as perdu de l'argent. Tu aurais dû les chasser de ta vie, tu as perdu de l'énergie. Tu aurais dû les chasser de ta vie. Puis il y en a d'autres, mon Seigneur, qui sont comme l'apôtre Paul. Il ne faut pas ne pas les avoir dans ton bateau parce que eux, ils n'attirent pas la tempête. Ils attirent la protection. Ils attirent la sécurité. L'ange dit, ne crains rien Paul parce qu'il faut que tu comparaisses devant César, le destin. Écoutez-moi bien, le destin ne te permet pas juste d'arriver à bon port. Le destin te permet de sécuriser ceux qui naviguent avec toi. Je dis, quand tu es conscient de ton destin, il y a des gens, rien que parce qu'ils te fréquentent, ils ne mourront pas prématurément. Rien que parce qu'ils sont attachés à toi, ils ne s'arrêteront pas en chemin. Bouscule quelqu'un à côté de toi, dis-lui, ils vont m'avoir de ton côté. Il faut m'avoir dans ton bateau. Donc, deux, trois choses que je vais essayer de vous dire dans le temps qu'il me reste. La première, c'est que, mon Seigneur, j'ai relu le texte et c'est récemment seulement que j'ai découvert. Ecclésiaste Salomon dit, il y a un mal que j'ai vu sous le soleil. C'est un mal, c'est mauvais, c'est pas bien. Mais il dit, c'est comme une erreur. Provenant de celui qui gouverne. Et le mot comme a tout son sens. Tu es comme un lion, tu n'es pas un lion. Tu es comme un dieu, tu n'es pas un dieu. Comme une erreur. Prophète Jack, ce que j'ai découvert, c'est que ce n'était pas une erreur. Le gouverneur a créé un système dans lequel les esclaves ont droit aux chevaux et les princes doivent marcher. Si c'est une erreur, c'est qu'il ne voulait pas
que les esclaves se retrouvent à cheval et les princes à terre. Mais à cause de l'erreur qu'il a commise, il y a eu renversement. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'était pas une erreur, c'était volontaire. Ça veut dire que le gouverneur a créé un système dans lequel les esclaves évoluent et les princes regressent. Vous ne m'entendez pas? Je vais vous dire ça différemment. Ça veut dire qu'il y a des gens dont le travail est de s'assurer que tu ne montes jamais à cheval. Il y a des gens dont le travail est de s'assurer que ceux qui ne devraient pas avoir ta voiture est ta voiture. Que ceux qui ne devraient pas avoir ton trône est ton trône. Ils s'organisent, my God. Il y a de la sorcellerie qui existe dans nos familles. Il y a de la sorcellerie qui existe dans nos entreprises. Il y a de la sorcellerie qui existe au Gabon. Il y a des gens qui réfléchissent à comment faire pour que les fils du royaume ne règnent pas. Comment faire pour que les fils de Dieu ne règnent pas. Comment faire pour que les fils de lumière ne règnent pas. Vous devez réaliser, les amis, que la vie ici n'est pas simple. Je veux que tu saches que pendant trop longtemps, tu as été naïf. C'est parce que tu penses que tu ne veux du mal à personne, que personne ne te veut du mal. Je veux te dire qu'il y en a qui ont juré que tu ne prospérera pas. Il y a des gens qui ont décidé que tu ne te marieras pas. Il y a des gens qui ont décidé que tu n'enfanteras pas. Il y a des gens qui ont décidé que tu n'auras pas ce poste. Il y a des gens qui ont décidé que ton entreprise n'évoluera pas. Ce n'est pas une erreur, c'est un plan réfléchi. Bouscule ta voisine, bouscule ton voisin. Dis-lui, tu n'es pas en train d'échouer par hasard. Dieu va m'aider ce soir. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis, il faut que tu saches que tu n'as pas les douleurs que tu as au bas-ventre par hasard. Je parle à une femme, je parle à des femmes. Des douleurs au niveau du bas-ventre, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que tu as une boule qui commence à sortir de ton sein, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que ton enfant qui était brillant n'arrive plus à évoluer dans ses études. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard qu'on enterre chaque année quelqu'un dans ta famille. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que Port Gentil, my God, I give you praise. Port Gentil, qui était la ville pétrolière, la ville où les gens ne pouvaient pas manquer d'argent. Aujourd'hui, c'est toi qui cherches 500. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que tu as commencé à bâtir cette entreprise et qu'aujourd'hui, l'entreprise ne monte plus. Ce n'est pas par hasard. J'aimerais que vous m'entendiez bien ce soir. Je veux vous dire que de la même manière que toi tu décides de réussir, il y a des gens qui disent que tu ne réussiras pas. Il y a des gens un peu comme Aman qui sont dérangés. Pourtant ils ont le cheval, pourtant ils ont la promotion, pourtant ils ont la position. Mais ils sont dérangés par un Mardoché qui se tient à la porte. Ils sont dérangés, ils sont dérangés quand toi tu ne te baisses pas devant eux. Ils sont dérangés, ils sont Malik et les Palada Palik à la Malapa. Comment expliquer, mon Seigneur? Comment expliquer que ce soit ton supérieur, que ce soit la personne qui a plus de pouvoir que toi, mais tu es dans l'entreprise, la personne essaie de te mettre des bâtons dans les roues. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je fais mon travail. Mais le problème, les amis, c'est qu'il faut que vous sachiez que ceux qui vous combattent ont vu en vous ce que vous ne voyez pas en vous-même. Ceux qui te mettent des bâtons dans les roues ne te mettent pas des bâtons dans les roues à cause de ce que tu vois de toi. Ils te mettent des bâtons dans les roues à cause de ce que eux ils voient de toi. J'aimerais vous dire ce soir que parfois, pour vous aider à savoir qui vous êtes vraiment, Dieu utilise vos ennemis pour prophétiser sur vous. Parfois, Dieu utilise vos adversaires pour révéler le potentiel que vous portez vraiment. Parfois, Dieu utilise les gens qui ne t'aiment pas. Elle se prend pour qui? Elle marche comme si elle était révérende. Oh là là là, je viens de recevoir une prophétie. Il se prend pour qui? Il agit comme s'il était évêque. Je n'étais pas encore évêque, mais maintenant que tu as prophétisé, je sais que c'est sur mon destin. Il se prend pour qui? Il marche comme s'il avait une entreprise. Écoute-moi bien, j'annonce prophétiquement ce soir que dans cette saison, tes adversaires deviendront tes plus grands fans. Aïe, 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 aïe. Voilà, voilà, voilà. Monseigneur François Rabenkoro, comment tu fais? Malgré les coups, malgré les attaques, malgré ce qu'on dit de toi, malgré ce qu'on raconte sur toi, pour te tenir debout et prêcher l'évangile avec autant de détermination, c'est parce que je me suis rendu compte que si je n'ai pas d'ennemis, c'est que je n'ai pas de marchepied. À chaque fois que Dieu veut m'élever, il me donne un nouvel adversaire. À chaque fois que Dieu veut m'emmener plus haut, il permet que quelqu'un me critique, que quelqu'un ne m'aime plus, que quelqu'un parle mal de moi. J'aimerais que tu bouscules 2, 3, 4, 5 personnes à côté de toi. Dis-leur, je vois que Dieu est en train de t'élever. Quand je regarde tes ennemis.
C'était À la découverte de soi, le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à utiliser chacune des ressources qui vous a été utile dans l'épisode que vous venez d'écouter. Et surtout, ne le gardez pas pour vous, partagez-le. Et rendez-vous sur michelambourouet.com pour encore plus de prédications et d'enseignements pleins de sagesse. À la découverte de soi vous est proposé par MA Organisation.